Physiologie du goût, variété 22. Une journée chez les Bernardins. Il était près d'une heure du matin. Il faisait une belle nuit d'été et nous étions formés en cavalcade, non sans avoir donné une vigoureuse sérénade aux belles qui avaient le bonheur de nous intéresser. C'est vers 1782. Nous partions de Belley et nous allions à Saint-Sulpice, abbaye de Bernardins, située sur une des plus hautes montagnes de l'arrondissement, au moins 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. J'étais alors le chef d'une troupe de musiciens amateurs, tous amis de la joie et possédant à haute dose toutes les vertus qui accompagnent la jeunesse et la santé. « Monsieur, m'avait dit un jour l'abbé de Saint-Sulpice, en me tirant après dîner dans l'embrasure d'une croisée. Vous seriez bien aimable, si vous veniez avec vos amis, nous faire un peu de musique le jour de Saint-Bernard. Le saint en serait plus complètement glorifié. Nos voisins en seraient réjouis et vous auriez l'honneur d'être les premiers orphées qui auraient pénétré dans ces régions élevées. » Je ne fis pas répéter une demande qui promettait une partie agréable. Je promis d'un signe de tête, et le salon en fut ébranlé. Annuit et totum nutu treme fecit olympum. Il acquiesça, son signe ébranla tout l'Olympe. Toute précaution était prise d'avance, et nous partions de bonne heure, parce que nous avions 4 lieues à faire par des chemins capables d'effrayer même les voyageurs audacieux qui ont bravé les hauteurs de la puissante butte Montmartre. Le monastère était bâti dans une vallée fermée à l'ouest par le sommet de la montagne et à l'est par un coteau moins élevé. Le pic de l'ouest était couronné par une forêt de sapins où un seul coup de vent en renversa un jour 37 milles. La maîtrise des eaux et forêts les compta, les vendit. Le commerce en profita. Les moines en profitèrent. De grands capitaux furent mis en circulation, et personne ne se plaignait de l'ouragan. Le fond de la vallée était occupé par une vaste prairie où des buissons de hêtres formaient divers compartiments irréguliers, modèles immenses de ces petits jardins anglais que nous aimons tant. Nous arrivâmes à la pointe du jour et nous fûmes reçus par le père Sellerier, dont le visage était quadrangulaire et le nez en obélisque. « Messieurs, dit le bon père, soyez les bienvenus. Notre révérend abbé sera bien content quand il saura que vous êtes arrivés. Il est encore dans son lit, car hier il était bien fatigué. Mais vous allez venir avec moi et vous verrez si nous vous attendions. » Il dit, se mit en marche et nous le suivîmes, supposant avec raison qu'il nous conduisait vers le réfectoire. Là, tous nos sens furent envahis par l'apparition du déjeuner le plus séduisant, d'un déjeuner vraiment classique. Au milieu d'une table spacieuse, s'élevait un pâté grand comme une église. Il était flanqué au nord par un quartier de veau froid, au sud par un jambon énorme, à l'est par une pelote de beurre monumentale et à l'ouest par un boisseau d'artichaut à la poivrade. On y voyait encore diverses espèces de fruits, des assiettes, des serviettes, des couteaux et de l'argenterie dans des corbeilles. Et au bout de la table, des frères laids et des domestiques prêts à servir, quoique étonnés de se voir lever si matin. En un coin du réfectoire, on voyait une pile de plus de 100 bouteilles, continuellement arrosées par une fontaine naturelle qui s'échappait en murmurant « Evoe bacce ». Et si l'arôme du moka ne chatouillait pas nos narines, c'est que dans ces temps héroïques, on ne prenait pas encore de café si matin. Le révérend Sellerier jouit quelque temps de notre étonnement. Après quoi, il nous adressa la locution suivante que, dans notre sagesse, nous jugeâmes avoir été préparée. « Messieurs, dit-il, je voudrais pouvoir vous tenir compagnie, mais je n'ai pas encore dit ma messe, et c'est aujourd'hui jour de grand office. Je devrais vous inviter à manger, mais votre âge, le voyage et l'air vif de nos montagnes
doivent m'en dispenser.
Acceptez avec plaisir ce que nous vous offrons de bon cœur. Je vous quitte et vais chanter matine.
À ces mots, il disparut.
Ce fut alors le moment d'agir, et nous attaquâmes avec l'énergie que supposaient en effet les trois circonstances aggravantes si bien indiquées par le cellerier. Mais que pouvaient de faibles enfants d'Adam contre un repas qui paraissait préparé pour les habitants de Sirius? Nos efforts furent impuissants. Quoique ultra repus, nous n'avions laissé de notre passage que des traces imperceptibles. Ainsi, bien muni jusqu'au dîner, on se dispersa, et j'allais me tapir dans un bon lit, où je dormis en attendant la messe, semblable aux héros de Rocroi, et à d'autres encore, qui ont dormi jusqu'au moment de commencer la bataille. Je fus réveillé par un robuste frère qui faillit m'arracher le bras, et je courus à l'église, où je trouvais tout le monde à son poste. Nous exécutâmes une symphonie à l'offertoire. On chanta un motet à l'élévation et on finit par un quatuor d'instruments à vent. Et, malgré les mauvaises plaisanteries contre la musique d'amateurs, le respect que je dois à la vérité m'oblige d'assurer que nous nous en tirâmes fort bien. Je remarque à cette occasion que tous ceux qui ne sont jamais contents de rien sont presque toujours des ignorants qui ne tranchent hardiment que parce qu'ils espèrent que leur audace pourra leur faire supposer des connaissances qu'ils n'ont pas eu le courage d'acquérir. Nous reçûmes avec bénignité les éloges qu'on ne manqua pas de nous prodiguer en cette occasion. Et après avoir reçu les remerciements de l'abbé, nous allâmes nous mettre à table. Le dîner fut servi dans le goût du XVe siècle. Peu d'entremets, peu de superfluité, mais un excellent choix de viande, des ragoûts simples, substantiels, une bonne cuisine, une cuisson parfaite, et surtout, des légumes d'une saveur inconnue dans les marais empêchaient de désirer ce qu'on ne voyait pas. On jugera, au surplus, de l'abondance qui régnait en ce bon lieu, quand on saura que le second service offrit jusqu'à 14 plats de rôti. Le dessert fut d'autant plus remarquable qu'il était composé en partie de fruits qui ne croissent point à cette hauteur et qu'on avait apporté du pays bas. Car on avait mis à contribution les jardins de Machura, la Morflan et autres endroits favorisés de l'Astre, père de la chaleur. Les liqueurs ne manquèrent pas, mais le café mérite une mention particulière. Il était limpide, parfumé, chaud à merveille. Mais surtout, il n'était pas servi dans ces vases dégénérés qu'on ose appeler tasses sur les rives de la Seine, mais dans de beaux et profonds bols où se plongeaient à souhait les lèvres épaisses des révérends, qui en aspiraient le liquide vivifiant avec un bruit qui aurait fait honneur à des cachalots avant l'orage. Après dîner, nous allâmes à Vêpres, et nous y exécutâmes, entre les psaumes, des antiphones que j'avais composées exprès. C'était de la musique courante comme on en faisait alors. Je n'en dis ni bien ni mal, de peur d'être arrêté par la modestie ou influencé par la paternité. La journée officielle étant ainsi terminée, les voisins commencèrent à défiler. Les autres s'arrangèrent pour faire quelques parties à des jeux de commerce. Pour moi, je préférais la promenade. Et, ayant réuni quelques amis, j'allais fouler ce gazon si doux et si serré qui vaut bien les tapis de la savonnerie, et respirer cet air pur des hauts lieux qui rafraîchit l'âme et dispose l'imagination à la méditation et au romantisme. j'ai constamment éprouvé cet effet dans les mêmes circonstances, et je suis porté à croire que la légèreté de l'air dans les montagnes laisse agir certaines puissances cérébrales que sa pesanteur opprime dans la plaine. Il était tard quand nous rentrâmes. L'abbé vint à moi pour me souhaiter le bonsoir et une bonne nuit. « Je vais, me dit-il, rentrer chez moi et vous laisser finir la soirée. Ce n'est pas que je crois que ma présence pût être importune à nos pères, mais je veux qu'ils sachent bien qu'ils ont liberté plénière. Ce n'est pas tous les jours Saint-Bernard. Demain, nous rentrerons dans l'ordre accoutumé. Cras iterabimus equor. » Effectivement, après le départ de l'abbé, il y eut plus de mouvement dans l'assemblée. Elle devint plus bruyante et on fit plus de ces plaisanteries spéciales au cloître qui ne voulaient pas dire grand-chose et dont on riait sans savoir pourquoi. Vers 9 heures, le souper fut servi. Souper soigné, délicat et éloigné du dîner de plusieurs siècles. On mangea sur nouveau frais, on causa, on rit, on chanta des chansons de table, et un des pères nous lut quelques vers de sa façon, qui vraiment n'étaient pas mauvais, pour avoir été fait par un tondu. Sur la fin de la soirée, une voix s'éleva et cria : « Père Sellerier, où est donc votre plat ?»«
C'est trop juste, » répondit le révérend. « Je ne suis pas sellerier pour rien. »
Il sortit un moment et revint bientôt après, accompagné de 3 serviteurs, dont le premier apportait des rôtis d'excellent beurre, et les 2 autres étaient chargés d'une table sur laquelle se trouvait une cuve d'eau-de-vie sucrée et brûlante, ce qui équivalait presque au punch, qui n'était point encore connu. Les nouveaux venus furent reçus avec acclamation. On mangea les rôtis, on but l'eau-de-vie brûlée, et quand l'horloge de l'abbaye sonna minuit, chacun se retira dans son appartement pour y jouir des douceurs d'un sommeil auquel les travaux de la journée lui avaient donné des dispositions et des droits. Nota bene. Le père Sellerier, dont il est fait mention dans cette narration, véritablement historique, étant devenu vieux, on parlait devant lui d'un abbé nouvellement nommé qui arrivait de Paris et dont on redoutait la rigueur. « Je suis tranquille à son égard, » dit le révérend. « Qu'il soit méchant tant qu'il voudra, il n'aura jamais le courage d'ôter à un vieillard ni le coin du feu, ni la clé de la cave. »